Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de trois émissions sur « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux ?» Nous poursuivons nos émissions sur la Résistance en évoquant l'année 1943. Nous accompagnerons Léonard Cohen avec son Partisan, écrit en 1943 par Emmanuel Dacier de la Vigerie, puis le chant des Partisans dans son intégralité. Une chanson russe avec des paroles d'Anna Marley, écrite en 1941, puis réécrite par Kessel en 1943 à Londres. Et ce chant deviendra l'hymne et le signe de reconnaissance de la Résistance française. Si en zone libre, le mouvement de résistance au nazisme avait été lent à se mettre en place dans les esprits puis dans les fêtes, en 1943, le STO et les lois antisémites, et puis maintenant l'occupation, ont enfin dessillé les yeux. Ainsi en juin, cachés à Anduze, une douzaine de réfractaires, dont Aimé Abel Boniface, vont rejoindre les forces françaises d'Algérie par l'Espagne. Ils sont arrêtés en Ariège, interrogés par la Gestapo et transférés au camp de Royallieu à Compiègne, puis en septembre à Buchenwald, où de juin 43 à août 44 arriveront de France plus de 13 000 déportés.
Les actions de résistance devenant périlleuses en ville, les vallées mystérieuses et les lourdes croupes rabotées par le vent des Cévennes protestantes méridionales vont servir de refuge une fois encore. Un refuge sûr grâce au silence du voisinage qui a appris à se taire, mais aussi refuge difficile car l'exode rural déjà engagé a ruiné beaucoup de ces masses et ces bancelles abandonnées ne livrent plus qu'une maigre pitance. Et pourtant, un millier de Juifs y séjourneront bientôt au cœur d'une population complice et autant de jeunes réfractaires au STO ou au camp de jeunesse. Petits groupes sans armes réfugiés à proximité des villages pour se ravitailler. Cinq types de maquis, allant des anarchistes aux nationalistes, se développent plus ou moins coordonnés par la résistance intérieure française, mais qui s'affrontent parfois.
Au milieu de l'année 42, Jean Moulin avait regroupé dans les mouvements unis de la résistance les trois plus importants mouvements de la zone sud. Combat, Libération Sud et Franc-Tireur, qui constitueront l'armée secrète. Puis en novembre, en accord avec la RAF, il a créé le service des opérations aériennes et maritimes et finalement, le 27 mai 1943, le Conseil national de la résistance.
Mais une organisation de résistance de l'armée, fondée en parallèle le 31 janvier 1943, regroupe des militaires hostiles à De Gaulle, colonel Zeller et Giraud. Pro-américaine et se disant apolitique, elle fusionnera pourtant en février 1944 avec l'armée secrète des FTP pour former les FFI.
Sauquel requiert toujours en vain des ouvriers pour l'Allemagne. 120 000 pour mai, 100 000 pour juin, 500 000 en août. Le ministre de l'armement du Reich préfère conclure un accord avec Laval le 15 septembre pour soustraire à la réquisition les entreprises françaises travaillant pour l'Allemagne. Les STO rejoindront surtout ce secteur protégé désormais. Notons qu'entre juin 1942 et août 1943, si 600 000 Français sont partis au STO, environ 200 000 y ont été réfractaires, dont 25 000 évadés par l'Espagne pour rejoindre la France libre en Algérie, et 50 000 qui sont venus grossir les maquis partout en France. Si ce nombre permet à la résistance d'envisager des actions de guérilla, Londres craint que celle-ci provoque l'augmentation des forces d'occupation, compromettant ainsi les chances d'un futur débarquement allié. En fait, dans l'immédiat, cet apport humain important pour la résistance provoque surtout pénurie d'argent, de vivres et d'armes.
Plusieurs petits foyers dispersés et indépendants se développent en Cévennes méridionales. En décembre 1942, des réfractaires s'installent sur les Goualles, mais le froid les enchasse et ils se réfugient chez Viala, aubergiste à Sommanes, qui les installe au Barel, ferme abandonnée à l'est de l'Estrichure. En mars 1943, d'autres STO rejoignent la Pierre Boulanger à l'Estrichure chez Fernand Borgne, maire de Sommanes, et rejoignent le Barel. Ils seront bientôt 17 hommes, dont Rascalon assure la liaison et le ravitaillement avec Nîmes. Fin avril, pour éviter une descente policière d'Alès, ils migrent dans une masure du Plot, sous protection des familles de la vallée de Valmy.
Mais le 15 mai, en accord avec Ravi, entrepreneur forestier à Saint-Jean-du-Gard, dont un chantier forestier servira de couverture, Rascalon et Marceau Lapierre, maire de Saint-Jean et chef de l'armée secrète, préfèrent déplacer ses réfractaires sur les Goualles. Glaise, transporteur et Bourély de Saint-André participent au déplacement puis au ravitaillement. Les 17 réfugiés sont accueillis dans la maison forestière d'Air de Côte par Berrière, le garde forestier, et son épouse, puis installés dans des baraquements de Bidil, au pas de l'escalette. Jean Castan, 22 ans, qui n'avait pu rejoindre la RAF, dirigera ce premier maquis d'Air de Côte. De leur côté, menacés d'arrestation, Julia et René Rascalon ont dû quitter Nîmes le 10 juin 1943 pour se replier sur Sommanes.
Le maquis d'Air de Côte se développe rapidement. 45 hommes début juin, puis environ 70 hommes, avec de nombreux gardois, belges, lyonnais, stéphanois, marseillais, qui veulent en découdre, mais ils ont peu d'armes. Rascalon doit les calmer. Quand 30 réfractaires supplémentaires débarquent de Saint-Ambrois, chassés par la police, le problème de nourriture devient crucial. Ce qui est collecté à Ganges par Cassé ou à Nîmes par Marceau Bonafou, puis acheminé clandestinement par différents transporteurs des vallées ou bien par Paredes, le chauffeur du car de Nîmes-Saint-Jean, ne suffit plus. On décide d'un coup de main sur un chantier de jeunesse de Merues. Un commando de nuit de 20 hommes en rapporte des vivres pour environ 15 jours.
Mais l'effectif augmentant toujours, plus de 100 maintenant, la disette provoque des défections et pose des problèmes de discipline. Ainsi, le Belge Paulus fugue pour retrouver une femme à Valrogue. Tandis que le 22 juin, un avion allemand survole les Goualles. Le 30, le capitaine Pavlet visite le camp, apporte de l'argent des alliés et expose un projet de camp retranché de les Goualles avec possibilité de parachutage. Mais le même jour, le fils du fermier de la Bessède, maire de Bassurel, prévient que la receveuse des postes de Rousse a une info à donner. Jean Castan y descend en bicyclette et une communication téléphonique de Florac, probablement un officier de gendarmerie, lui signale que le plateau doit être nettoyé par les gardes mobiles soutenus par les Allemands vers le 5 juillet. Le lendemain matin, Castan remonte au camp avec l'intention d'évacuer dès la nuit suivante vers l'Asclier.
Dans la soirée, on est prêt à partir, mais il pleut et à 21h05, une attaque surprise de parachutistes allemands, conduits par le traître Paulus, fait 7 morts, 3 disparus et 59 prisonniers déportés, dont 19 ne reviendront pas. Le garde forestier d'Air de Côte est également déporté. Seuls 21 rescapés se regroupent au Vala puis à Novice avant de rejoindre le maquis de La Salle.
D'autres petits maquis se sont développés. Le maquis de la Souillérade, ou maquis d'Ardaillès par exemple. En mars 1943, le pasteur Olivès a installé 7 de ses réfractaires de Valrogue dans une bergerie près de Talayrac, dans des conditions matérielles précaires. En novembre, ce petit groupe s'installe dans une bâtisse abandonnée, baptisée par les nouveaux arrivants la Souillérade, l'Ensoleillée, un excellent poste d'observation. Mais les effectifs croissent toujours et un nouveau camp est installé dans une bergerie de la vallée du Crau. En octobre 1943, Refusant le STO, Jean Faucon et Jacques et Robert Poujol s'installent à Ardaillès et préparent, avec le pasteur Olivès, l'ouverture d'une école des cadres du maquis qui ouvrira en janvier 1944 au mas Gibert. Un instructeur y enseigne le maniement des armes, en fait 5 fusils d'instruction et un vieux FM, les techniques de la guérilla et surtout l'esprit d'équipe.
Puis il y a le maquis de Sumène, fondé en mars 1943 par Maurice-Yves Castagnier, étudiant en droit, écrivain Jean Sévène. Il rejoindra celui de l'Égual où Castagnier sera l'adjoint du pasteur Olivès. En été 1943, Marceau Lapierre et Georges Lafont du comité de Saint-Jean regroupent environ 30 réfractaires à la Picharderie, au-dessus de l'Iris. La famille André de La Falguière, près de Sainte-Croix, assure le ravitaillement et Jean Bonijol, né à Montbrun en 1921 d'un père de Vialas, dirige ce groupe, Toussaint, avec 27 vieux fusils Moser.
À Nîmes, pendant ce temps, une épuration préfectorale relève Charles Bedos de ses fonctions de juge de paix suppléant en septembre 1943. Et en octobre, suite à un attentat contre des soldats allemands, il est arrêté avec 9 autres résistants, amené au siège de la Gestapo du boulevard Gambetta, puis transféré au camp de Royallieu à Compiègne. Alix Bedos, son épouse, effectue de nombreuses démarches à Vichy auprès de Paul Cressel, avocat socialiste rallié avec Laval à Pétain et devenu ministre de la Propagande, et même de Giesler, responsable SS de la zone sud. Autorisée à se rendre à Compiègne, elle peut s'y entretenir avec son mari grâce à un gardien d'origine tchèque, mais ne pourra pas éviter sa déportation en mars 1944 à Mauthausen en Autriche, comme Nachhundnebel. Et durant plus d'un an, Charles Bedos vivra dans l'horreur de ce camp de travail, un des plus durs, à l'intention des ennemis politiques incorrigibles du Reich, Dixit, et dont les prisonniers n'étaient pas censés revenir.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me dirent « signe-toi », mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Ah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows.
Puis, il y a le maquis de Saint-Hippolyte. Les réfractaires nombreux dans la région sont répartis en plusieurs lieux. Les Fosses, les Rochers de Maffre avec Louis Guiraud, puis chez les Souliers à Driolle, sous Saint-Roman de Caudière, où ils fêtent Noël 1943. Le ravitaillement difficile doit être collecté jusqu'à Nantes. Émilien Camplan, secrétaire de mairie, fournit les faux papiers.
Il y a aussi, bien sûr, le maquis de La Salle. De nombreux réfractaires au STO s'étaient réfugiés vers La Salle. Jean Viala et Robert Francisque, dit Le Noir, né à Saïgon, les regroupent dans un maquis début 1943. Engagé un moment dans la milice pour y recueillir des informations, Francisque fonde alors une école de cadres de résistance au château de Malérargues, entre Toiras et La Salle. En juillet 43, nous avons vu les survivants d'Air de Côte les rejoindre. L'hébergement est précaire et le ravitaillement incertain, organisé en liaison avec d'autres résistants, grâce à Cécile Vuillemeneau, infirmière, et Rose Franquiel, pharmacienne, qui, outre le rôle médical, joue les agents de liaison avec des résistants de Toulouse et Montpellier. Le 4 août 43, le maquis de La Salle est reconnu officiellement dans l'armée secrète et deviendra le plus important maquis du Gard.
Il se dote de son propre corps franc, une douzaine d'hommes qui accomplit des missions spécifiques extérieures. Ainsi, le 15 janvier 1944, ce corps franc aide les maquisards de Bir Hakeim à s'emparer d'un stock de vêtements à usage militaire aux usines Pollan de Saint-Jean-du-Gard. Ils en rapportent près de 2000 shorts kaki, des toiles de tente, des bleus de travail et des tenues de forestier. C'est encore ce corps franc qui, le 1er février, encadre le défilé des maquisards à travers La Salle, le dépôt d'une gerbe au monument aux morts et les chants patriotiques sous les acclamations de la population. Geste spectaculaire, mais aventurisme qui ne fait pas l'unanimité, même si, le 4 février, des FTP organisent l'évasion de 26 prisonniers de la citadelle de Nîmes.
De fait, le 20 février, arrive la 9e Panzerdivision SS Hohenstaufen du général British, dont un détachement, accompagné par la Feldgendarmerie, quitte Nîmes dans la nuit du 27 au 28 pour éradiquer les maquis cévenols du Gard et de la Lozère, conjointement aux troupes allemandes installées à Mende et Florac. Les SS se rendent d'abord à Saint-Hippolyte et, sur dénonciation, montent à Driol, où ils arrêtent 6 hommes avant d'incendier le hameau. Puis aux fosses, où ils abattent l'homme qu'ils avaient contraint à les guider, tandis qu'un des 6 est pendu au viaduc de Saint-Hippo au-dessus de la route de La Salle. Les 5 autres restant enfermés dans le château de Planque. Puis, un détachement motorisé arrête 4 hommes du centre d'accueil polonais de La Salle et récupère les 5 prisonniers de Driol.
Au lendemain, du 29 vers 10h du matin, une patrouille allemande débarque et en sidecar à Ardaïès. Les 25 à 30 maquisards s'enfuient aussitôt en se divisant en 4 réduits. Mais une colonne motorisée en ordre de combat approche du village. 47 véhicules transportent 350 officiers. Les Allemands fouillent, pillent le village et interrogent les habitants. Ils repartiront vers 14h, sans information, mais un lourd bilan. Maison incendiée, mort d'un habitant et rapt de 6 otages, dont 2 frères, qui seront libérés après l'interrogatoire par la Gestapo nîmoise.
Ce même jour, un convoi du maquis Bir Hakeim, en route vers Pont-Saint-Esprit, force un barrage allemand à Saint-Hippolyte, faisant un mort et plusieurs blessés. La voiture est rattrapée. 2 passagers sont tués et les 2 autres parviennent à fuir malgré leurs blessures. Recueillis, ils seront transférés à l'hôpital de Nîmes dans le taxi de M. Trabuc. Le 2 mars, les 5 prisonniers de Driol et les 4 pris à La Salle sont emmenés à Nîmes dans la cour de l'école de garçons de la rue Bonfa, rejoints bientôt par 4 prisonniers d'Ardaïès et les 2 maquisards blessés, dénoncés et récupérés à l'hôpital. Les SS conduisent ces 15 prisonniers au viaduc de la route d'Uzès et forcent les passants à assister à l'exécution par pendaison de 6 hommes. Et puis, le convoi part ensuite vers le viaduc de la route de Beaucaire, où sont pendus 3 autres prisonniers. Enfin, ils gagnent la route de Montpellier, où les 6 derniers prisonniers sont pendus à des arbres.
Tous seront enterrés le jour même dans une fosse commune à Jonquière-Saint-Vincent, mais transférés en septembre au cimetière de Saint-Baudis.
s'ouvre du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.